Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.
Fréquence Oscillée vous fait revivre tout l'été, planète en fête. Cette manifestation autour de l'agriculture biologique et du développement durable s'est déroulée les 6 et 7 juillet à Saint-Pierre-des-Nids en Mayenne. À l'occasion des 10 ans de Planète en Fête, une équipe de fréquenciers y a installé son studio itinérant pour recueillir les interviews des participants, exposants, producteurs, acteurs du développement durable.
Planète en fait à Saint-Pierre-des-Nids, bien évidemment, s'intéresse à tous les aspects de ce qui peut rendre une vie plus dans l'intérêt de la planète et de l'ensemble de l'humanité. Et si on pense bien évidemment le côté alimentaire, préservation des espaces, de la biodiversité, etc., on ne pense pas forcément immédiatement, spontanément, que dans les petits gestes de tous les jours, finalement, il peut y avoir des fois des comportements qui peuvent être bons pour la planète. Et il y a des associations ou des entreprises qui sont parties sur ce terrain. C'est le cas de l'entreprise H2O At Home, on va le prononcer à l'américaine puisqu'il s'agit d'une société américaine.
Non, c'est une société française.
Française,
mais qui s'est installée depuis peu aussi aux États-Unis.
Ah voilà, donc c'est l'inverse.
C'est l'inverse.
Bien fait, pour une fois. Et nous sommes avec Eliane Moulard. Eliane Moulard, vous venez de Saint-Brieuc.
Oui.
Je signale quand même pour nos fidèles de la région de Ciel-Guillaume que nous nous sommes déjà rencontrés une fois.
Oui, à Saint-Brieuc,
puisque vous aviez été au départ du Téléthon, vous aviez reçu l'ensemble de l'équipe du Téléthon qui avait fait Saint-Brieuc-Ciel-Guillaume avec Guy Barrier, et vous êtes une sœur de Guy Barrier. Voilà donc le lien qu'il y a aussi avec Ciel-Guillaume. Et je peux vous dire qu'on a gardé un excellent souvenir de votre accueil là-bas à Saint-Brieuc. Mais c'est pas pour parler du Téléthon que nous sommes ici ensemble, c'est justement pour parler de ce que fait cette société qui propose toute une gamme de produits pour la maison ou pour le corps qui respectent les principes. Donc ce sont des produits bio certifiés. Enfin, c'est quoi ces produits?
Donc oui, nous avons des produits consommables biologiques certifiés EcoCert et certifiés Nature et Progrès. Et nous avons aussi du textile écologique qui permet de faire le ménage qu'avec de l'eau.
Alors, donc il s'agit pour vous d'éviter tous ces produits chimiques qui sont sur des dizaines de mètres de rayon dans nos grandes surfaces.
C'est exact.
Dont on peut penser a priori qu'ils sont nocifs.
Complètement.
En quoi ces produits sont nocifs? C'est quoi le problème? C'est l'utilisation sur place, le contact avec l'humain, l'évacuation après avec les eaux usées? C'est quoi
tout,
le problème?
Vous avez fait le tour. Vous avez tout dit.
J'ai tout dit.
Oui. Hein,
donc il y a bien tous ces problèmes-là.
Oui.
Prenons la chiffonnette.
Oui.
Je ne suis pas un spécialiste en chiffonnette, je l'avoue franchement. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, la chiffonnette par exemple que vous proposez?
Donc c'est une microfibre qui est tissée, qui est fabriquée en France. Alors la microfibre est multipliée en 18 parties, ce qui fait que ça la rend... elle travaille par capillarité, un peu comme du sucre au-dessus du café. Le café va remonter dans le sucre. Là, ça va être le même principe.
Ah, d'accord.
Et aussi par le frottement. Le fait qu'elle soit tissée, elle est beaucoup plus solide.
Donc c'est le tissage qui change tout, en fait.
Il y a le tissage et la nature du fil.
Et le fil, c'est quoi, en fait?
Alors, polyamide et polyester.
Et c'est pas des produits synthétiques, ça?
Alors, c'est du produit synthétique. Mais lors de la fabrication de ce fil, il n'est consommé que 460 litres d'eau, alors qu'un coton normal, il est consommé 18 000 litres d'eau, et tout ça pour 1 kg de textile.
D'accord.
Et 16 kg de pesticides pour le coton. Alors que, et en coton bio, c'est 24 000 litres d'eau. Et nos chiffonnettes, c'est 460 litres d'eau, et il y a quand même 1,6 kg de pétrole. Et pour la valeur de 3 fois plus de travail par rapport au coton.
Donc votre argument, c'est de dire que ces produits-là enfin la matière utilisée elle-même a été moins vorace en consommation de biens collectifs, eau, etc.
Voilà.
Et qu'en plus, au moment de l'usage, elle n'a pas d'effet polluant puisque vous l'utilisez avec de l'eau seulement. Alors.
Voilà, et on consomme beaucoup moins d'eau.
Mais alors, puisque je suis obligé de jouer le rôle du gros méchant, c'est aussi efficace que les détergents du grand commerce.
Vous n'êtes pas du tout méchant.
Je suis bien dans le rôle du méchant.
Non, vous n'êtes pas du tout méchant, au contraire. Là, vous me
le gros méchant super convaincu.
au contraire. Non, c'est beaucoup plus efficace dans le sens où on ne passe qu'une fois. On n'a pas à mettre de produit, on n'a pas à rincer. On n'a pas une multitude de gestes à faire.
Oui, on n'y pense pas, c'est une fois.
Un seul passage. Et puis, ça capte vraiment très très bien, beaucoup mieux et sans laisser de traces.
Mais on n'imagine pas quand même, quand on voit ces fameux rayons, on imagine qu'il y a aussi la même proportion de consommateurs. Ce type de comportement par rapport, on va dire, à un usage ménager, ça correspond à une très faible proportion de la population aujourd'hui.
Pour le moment, oui, puisqu'on a à peu près 200 000 clients sur la France.
Et y a aussi, je suppose, d'autres sociétés qui proposent un produit du même style, non ? Ou vous êtes tout seul sur le marché français ?
Oui, il y a d'autres entreprises qui proposent, mais on est les seuls à proposer de la fabrication française.
Française, hein,
donc
intégralement.
On y tient avec du personnel
ça,
français.
Ça, c'est un argument fort aujourd'hui, bien
des
sûr.
Des salaires français.
Propres et créant de l'emploi ?
Voilà.
Voilà, donc on a bien compris le message.
Dans une bonne ambiance.
En dehors de ces produits, vous avez des produits pour le corps.
Oui.
Qu'est-ce qui différencie un produit pour le corps bio, je pense un produit shampoing, une lotion quelconque, un produit anti-solaire. Tout à l'heure, vous étiez en train de, puisqu'on est ici dans l'enceinte de Planète en fait, il fait une belle chaleur, il y a sûrement plus de 30, y compris à l'ombre, et quelqu'un était passé avec un coup de soleil, vous l'avez légèrement enduit, protégé, formidable. Un produit spécial par rapport aux autres produits solaires ?
Oui, déjà, on a zéro produit synthétique dedans.
C'est quoi les produits synthétiques qu'il y a chez les autres ?
Je m'intéresse surtout à ce qu'on a comme
ça, c'est sympa quand même. Je ne vais pas dire du mal des autres, je vais dire du bien de moi seulement.
Je ne peux parler que de ce que je connais.
Donc, qu'est-ce qu'il y a de naturel donc, dans les produits
par exemple,
pour le corps que vous utilisez ? Par exemple, pour l'histoire du coup de soleil là.
Voilà. Dans ce produit, en fait, c'est pour protéger du soleil et c'est à base de minéral. Donc, le soleil, quand il arrive sur la peau, sur ce produit, ça fait effet de miroir. Donc le soleil est renvoyé, il ne pénètre pas dans la peau. Et ça évite les dégâts sur la peau.
Alors que les autres produits fonctionnent sur quoi en fait ? Quel principe ?
Ben, différemment, il n'y a pas ce système de miroir. Donc
vous êtes trop dedans avec la concurrence, la concurrence chimique. Hein.
Ben, c'est-à-dire que je ne m'intéresse pas vraiment aux autres produits parce que je sais que ça ne me convient pas. Et je préfère m'intéresser.
Donc on a compris le principe.
Me centrer sur quelque chose qui me plaît.
Parmi les autres produits, il y a donc ces lotions, ces shampoings. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Alors,
par exemple, nous, nos crèmes de jour, les crèmes de nuit sont faites à base d'hydrolat de plantes. Il n'y a pas du tout de.
C'est quoi exactement
l'hydrolat
comme
plantes.
Solution ?
Alors, en fait, ce sont des plantes qui sont distillées et on récupère par système de vapeur. On récupère, lorsque la vapeur redevient eau, on récupère cette eau-là qui a des particules d'huile essentielle. Et donc ça devient de l'hydrolat de plantes et c'est plus facile à utiliser par les personnes par rapport aux huiles essentielles qui sont quand même plus... disons, les huiles essentielles, il faut les utiliser avec précaution.
Plus tonique, plus concentré.
C'est à utiliser avec beaucoup de précaution, alors que l'hydrolat de plantes, on peut l'utiliser facilement et on peut aussi l'utiliser sur les enfants. Donc nos produits sont en base d'hydrolat.
Alors, l'avantage, c'est quoi par rapport à la peau, au corps
C'est-à-dire que c'est un produit actif, alors que les autres produits, donc vous me parliez des autres, les autres mettent 65% d'eau dans les produits. Donc, c'est vrai que quand vous achetez un produit avec de l'eau dedans...
Un shampoing, par exemple, ou un bain-douche
Alors, le shampoing n'est pas un bon exemple, parce que lui, il ne va pas être à 100%.
Je suis vraiment pas doué sur la question.
C'est surtout par rapport aux crèmes.
Oui.
Les crèmes que l'on met pour nourrir la peau la nuit et pour protéger le jour. Donc, sur des crèmes qui sont actives. Et elles ont besoin d'être actives. Un shampoing, on n'a pas besoin de l'avoir à 100% active, puisque vous allez le rincer aussitôt. Ouais, donc ça ne sert à rien de mettre de l'actif.
Compris, ouais.
Donc il y a un petit peu d'eau dans les shampoings.
Oui.
Il semblerait que dans les crèmes et tous les produits qu'on garde sur la peau, ils sont faits donc à l'hydrolat qui permet d'avoir des produits entre 90% actifs et 100%. Et c'est vrai que dans les produits qui ont 65% d'eau se retrouvent avec uniquement 5% de produits actifs.
Comment on distribue ces produits-là? Parce que on les voit pas dans les grandes surfaces à côté de ces dizaines de mètres de rayons que j'évoquais tout à l'heure.
Non, on ne les voit pas parce que
pourquoi
ce sont des produits qui demandent à être expliqués. Vous n'allez pas acheter un produit comme ça sans savoir ce qu'il vaut. C'est vrai qu'il a un prix aussi qui explique. Et encore, un prix, tout est relatif, puisque il y a certains produits, même avec 65% d'eau, qui sont beaucoup plus chers que les nôtres. Mais ce sont des produits qui demandent à être expliqués. Et lorsque vous posez ces produits-là, vous savez qu'ils sont à 90% actifs. Bon, d'avoir conscience de ça déjà, c'est quand même plus intéressant quand vous le posez.
Donc c'est pour ça que vous fonctionnez un peu avec le système Tupperware, c'est un peu ça, donc grosso modo.
Oui, ça va
être... Pour prendre un mot qu'une génération plus ancienne connaît.
Oui, sauf que, oui, on va dire le système de vente à domicile, et on adhère justement à la fédération de vente à domicile.
Ah,
ça,
d'accord.
C'est très très important. Quand vous voulez vraiment un produit sérieux, il faut déjà commencer à regarder si l'entreprise fait partie de la fédération de vente à domicile, dont fait partie aussi l'entreprise de boîtes plastiques.
Et du nom que j'ai cité tout à l'heure, sans vouloir faire de la pub, de forcément. C'est juste pour être bien compris par l'auditeur.
Et vous remarquerez quand même que ces boîtes sont de très bonne qualité, parce qu'en fait, tout ce qui peut être vendu à domicile, toutes les entreprises qui adhèrent à la fédération, ce ne sont que des produits quand même de qualité.
Et puis finalement, il y a une espèce de contact direct entre le consommateur.
C'est
moins froid en fait.
C'est très convivial.
Puis s'il n'est pas content, il sait à qui s'adresser.
En général, les gens ne sont pas... les gens sont contents, ils reviennent pour... reprendre autre chose.
Et le bouche à oreille, ça fonctionne bien
énormément.
À partir de ce moment-là, sur ce système-là?
Énormément.
Ouais. Mmh. Donc vous défendez vos produits, on comprend bien pour quelle raison. Vous défendez aussi le mode de distribution de ces produits. Est-ce qu'il y a quand même aussi une recherche régulière pour élargir la gamme ou faire évoluer la gamme, ou trouver des produits toujours encore plus propres, en quelque sorte?
C'est bien de me poser cette question, parce que j'y tiens beaucoup.
Oh, j'ai bon ce coup-là. Je suis content.
Parce que c'est vrai qu'on a une entreprise vraiment géniale, et on a un patron qui est le PDG, justement, de la France, de la Belgique et des États-Unis. Vraiment quelqu'un de très, très ouvert. Il a 45 ans, ça fait 15 ans qu'il a ouvert cette entreprise, qu'il a monté cette entreprise. Et il fait partie d'un groupe de 50 personnes en France et il travaille justement sur tout ça. Et c'est grâce à lui et à ce groupe de 50 qu'il a pu y avoir aussi une charte par rapport aux produits ménagers, parce que ça n'existe pas.
Ah, il existe une charte?
Oui.
Qu'est-ce qu'elle dit cette charte?
C'est la charte,
les éléments principaux.
Comme vous avez la charte par rapport à EcoCert et Nature et Progrès, ça n'existait pas avant sur les produits ménagers. Ça n'existait que dans l'alimentaire, donc tout ça, il y a un travail de fait. Et
ça fait combien d'années qu'elle existe cette charte alors?
Cosme Bio, par exemple, pour les produits les crèmes, c'est vers 2002, c'est pas très très
ça,
vieux.
Ça a 10 ans au maximum, quoi.
Un bon 10 ans.
D'accord.
Et les produits de ménagers, c'est moins que ça.
On trouve cette charte accessible, lisible sur Internet
Oui, vous allez vous taper EcoCert ou...
il suffit d'aller avec EcoCert, on peut trouver. Mmh. Hein, d'accord.
Et là, on vous donne aussi les ingrédients qui sont autorisés, des ingrédients qu'on va dire semi-synthétiques pour conservateurs. Et justement, chez H2 Bio et H2O, surtout pour les produits de la peau, nous, on est arrivé à zéro produit synthétique. Dans les shampoings, ça existe encore hein, des shampoings bio avec encore un ou deux produits.
Mais qui pour autant ont quand même la certification.
Ça fait partie de la liste autorisée.
D'accord.
Mais nous, on a un patron qui excelle dans la qualité et qui cherche vraiment le
plus
le
bio, summum. Plus bio que bio. Ouais,
forcément bio.
Qui lave plus blanc que blanc.
C'est vrai que c'est assez difficile, mais on a trouvé des choses qui lavent bien blanc.
D'accord. Non, en tout cas, on a compris qu'il est intéressant de développer la recherche en matière de produits pour la maison avec des produits propres et des produits qui, en matière de fabrication, sont moins mobilisateurs de ressources et d'énergie. Vous êtes dans cette logique-là, nous, on a bien compris. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les contacts pour ces produits, comment on fonctionne, puisque c'est pas un magasin?
Alors c'est pas par magasin. En fait, on peut aller sur le site directement, H2O Atom. Et puis autre.
At home, pas at, oui, pas, non, pas atome. Hein.
Pas, non.
Non, ici on est dans une. Non, l'atome ici il est banni dans la planète en fait.
At home. H2O à la maison. Et donc vous pouvez aussi nous trouver, nous personnellement, à Ciel-Guillaume le 11 et 12 octobre.
En octobre, la foire, la brocante.
La brocante de
la grande brocante. Bah oui, bien sûr.
Qui est organisée par mon frère Guy Barrier.
Et ben voilà.
Voilà, c'est
Guy. On salue Guy au passage.
Et voilà, un petit coucou à Guy. C'est le 12 et 13 octobre, hein, à Ciel-Guillaume. C'est vrai que ça draine 20 000 personnes.
Oui, oui, c'est une énorme manifestation. Oui.
Mais c'est...
Guy a monté ça et avec son équipe et c'est un beau succès qu'on apprécie à Ciel-Guillaume, absolument. Oui. Et voilà, donc nous étions avec la sœur de Guy, hein, voilà, disons-le comme ça, Eliane Moulard, qui évoquait avec nous donc H2O at Home, toute une gamme de produits, tout un catalogue de produits certifiés. Et qui permettent donc à la fois ne pas désagréger la planète en fabriquant ces produits et de ne pas polluer en les utilisant. Donc une belle alternative à tous ces produits chimiques que nous utilisons bien trop souvent dans nos cuisines pour laver nos sols, nos salles de bain et puis aussi notre corps parfois qui est quand même quelque chose auquel on tient particulièrement. Voilà, merci Eliane Moulard pour cette intervention et on vous souhaite une bonne continuation sur Planète en fait à Saint-Pierre-des-Nids où nous sommes actuellement.
Merci beaucoup.
À Saint-Pierre-des-Nids, pour Planète en fait, il y a de nombreux partenaires et bien évidemment le parc naturel Normandie-Maine est présent dans cette manifestation. Michel Hamelin, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes responsable du pôle environnement de ce parc naturel Normandie-Maine. Rappelez-nous d'abord les contours de ce parc.
Donc il faut savoir que c'est un territoire assez vaste, hein, puisque du nord au sud on va grosso modo de Rannes dans l'Orne jusqu'à Ciel-Guillaume et d'est en ouest, du Mel-sur-Sarthe dans l'Orne jusqu'à Mortain dans la Manche.
Qu'est-ce qui fait vraiment l'unité de ce parc ?
Alors, à l'origine, ce territoire a été construit autour des grands massifs forestiers de Normandie et du Maine, notamment la forêt des Andennes, la forêt des Landes pourries. On va commencer par la forêt des Landes pourries, secteur de la Manche, après la forêt des Andennes dans l'Orne, jusqu'à la forêt de Bourse en passant par la forêt des Couves, et sur la partie, on va dire, Mayenne et Sarthe, la forêt de Sillé, la forêt de Persagne. Donc ce territoire est principalement forestier, ce qui a motivé l'origine du parc Normandie-Maine, et notamment ça représente grosso modo 20% du territoire.
Ce parc a été créé il y a déjà bien longtemps maintenant.
En 1975, c'est un des premiers parcs de France, naturel régional de France, qui a une longue histoire et qui a été obligé de s'adapter au fil du temps, aux évolutions
des demandes de
la société vis-à-vis des parcs naturels régionaux.
C'est ça justement la question qui m'intéresse, c'est qu'au départ, les parcs étaient conçus pour défendre l'environnement uniquement de façon très, très générale. Et maintenant, la vocation, c'est quoi ?
Alors, ça c'est une idée reçue. Initialement, les parcs ont été créés sur des territoires qui présentaient une qualité d'environnement reconnue, donc Normandie-Maine pour ses forêts et son bocage, à destination des gens qui souhaitaient découvrir des territoires et s'oxygéner et s'aérer. Et au début, le parc a surtout travaillé dans la promotion de ce territoire, notamment par des actions sur les activités de plein air. Donc il était à l'origine de 3 bases de pleine nature. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une au niveau du parc à Moulin-Carbonel, sur lequel on a encore des doutes pour son avenir, puisqu'en fait, l'évolution des demandes en termes de sécurité sont tellement drastiques aujourd'hui que tous ces équipements...
Où étaient les deux autres ?
Alors, il y en avait une qui était à Torchamps, dans l'Orne, sur la rivière la Varenne. Et la troisième qui a été installée par le parc était au niveau de l'étang de la vie, du côté de Lignières-Orgères.
Ah, d'accord. Oui.
Saint-Patrice-Lignières.
Ouais, ouais, limite Orne-Mayenne par là.
Orne-Mayenne, oui.
D'accord. Et vous nous dites qu'il y a des menaces sur le site de Moulin de Carbonel, alors.
Alors, il y a des menaces, c'est pas qu'il y ait vraiment des menaces, c'est qu'aujourd'hui, alors, ce qui était fait pour Torchamps, hein, Torchamps n'était plus aux normes, donc le parc a construit un nouveau bâtiment. Qui a été géré par un syndicat mixte, et aujourd'hui le syndicat mixte est devenu autonome. La base du Petit Jard, là, sur les temps de la vie, a une durée de vie de 15 ans. Donc on est obligé, le parc est obligé d'arrêter l'activité. Et sur Moulin Carbonel, le syndicat mixte du parc est en train de réfléchir sur quelle destination, quelle orientation aujourd'hui.
Vous êtes, vous, responsable environnement dans ce parc. Ce parc qui a son siège, il faut le rappeler, donc à Carouge.
À Carouge.
Hein, ça n'a pas changé depuis la création. Le responsable du pôle environnement, quels sont les points de vigilance sur lesquels il accentue son travail?
Donc, voilà, je reprends un peu l'histoire du parc. La première réglementation qui prévoit que les parcs travaillent sur l'environnement est un décret de 1988. Qui a été repris par la loi paysage de 93 et son décret d'application. Et depuis, en 2005, je crois, il y a une nouvelle loi qui est sortie sur les parcs et qui inscrit les parcs dans des actions en faveur de l'environnement et de la biodiversité, principalement. Donc le premier travail du parc, fin des années 80, début des années 90, ça a été plutôt de connaître son territoire et de savoir quels étaient les espaces remarquables, les milieux intéressants sur ce territoire qu'il fallait absolument préserver. Donc un certain nombre d'inventaires ont été réalisés à l'échelle du territoire du parc Normandie-Maine pour connaître ce patrimoine naturel. À partir des débuts des années 2000, tout le monde a entendu parler de Natura 2000, un projet européen. Il faut savoir que
Il y a beaucoup d'espaces Natura 2000 sur le parc.
Il y a 17 sites Natura 2000 sur le territoire du parc.
Ah, tout de même, oui.
Et sur ces 17 sites, le parc est animateur de 11 sites.
D'accord. Rappelez-nous quand même pour l'auditeur, parce que je vous ai coupé, et l'auditeur ne sait pas forcément ce qu'est Natura 2000.
Donc c'est un réseau européen qui s'appuie sur deux directives européennes, une qui date, qui est assez ancienne, qui date de 89 sur les directives oiseaux, qui a été revue depuis, une qui date de 92, directive Habitat. Et à partir des années 90, donc c'est en quelque sorte ce réseau Natura 2000 au niveau européen est une réponse de l'Europe aux engagements de la conférence de Rio en 92 pour dire voilà, on va mettre des actions en faveur de la biodiversité et de son maintien. Et ce réseau s'appuie sur un certain nombre, on va dire, d'espèces. Alors, pas la directive oiseaux, d'oiseaux, et un certain nombre d'espèces animales, autres que oiseaux, et voire de plantes aussi, pour la directive habitat, et aussi un certain nombre de milieux naturels. Et le territoire du parc abrite un certain nombre de ces milieux, et on le sait grâce aux inventaires qui avaient été conduits jusqu'à présent, et ça nous a permis, comme ça, de proposer aux services de l'État, notamment au DIREN à l'époque et aux directions régionales de l'environnement et de l'aménagement du logement aujourd'hui, des territoires pour s'inscrire dans ce réseau.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple très, très concret, si possible, plus proche de chez nous, bien évidemment,
un exemple
d'espace Natura 2000 avec une préoccupation particulière de protection sur cet espace?
Je vais en prendre un qui va être très concret pour vous, les Alpes Mancelles. Il faut savoir que sur ce territoire, on a des habitats qui sont remarquables au niveau européen, que sont les pierriers. Tous ces éboulis rocheux que l'on peut observer quand on est à Saint-Léonard-des-Bois en particulier, hein, le Haut-Fourché ou la Vallée de Misère, sont des habitats qui sont très très rares. Et dans ce cadre-là, on a pu désigner cet espace, notamment pour ces pierriers. Alors, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été réalisés, notamment sur le Haut-Fourché et en particulier sur la Vallée de Misère, pour dire limiter, on va dire, l'envahissement par la végétation de ces habitats. Donc des travaux qui ont consisté à déboiser un peu et puis à enlever un peu de petits arbustes, notamment des formations de landes, pour remettre en activité le pierrier.
Est-ce que on n'a pas aussi depuis quelques années une préoccupation plus particulière sur les zones humides?
Alors tout à fait. Alors, à ce titre, le parc anime un contrat de nature, notamment sur le territoire de la communauté de communes des Avaloirs, dans lequel on expérimente des mesures agri-environnementales sur les zones humides. Alors, il faut savoir que les mesures agri-environnementales, c'est un outil qui est mis à disposition des différents États, notamment sur les sites Natura 2000. Mais là, on est hors contexte Natura 2000. Donc, c'est un travail d'expérimentation qui est fait avec la Direction régionale de l'agriculture de la forêt des Pays de la Loire pour essayer de convaincre quelques exploitants agricoles à prendre ce type de mesure. Donc la contrepartie de la mesure, c'est un accompagnement financier, bien évidemment. Mais l'originalité de ces mesures, c'est que jusqu'à présent, ces mesures-là étaient basées sur un cahier des charges à respecter. Là, il n'y a pas vraiment de cahier des charges à respecter. Il y a un objectif à atteindre. Et il y a un diagnostic de la parcelle qui est faite, dans lequel on va recenser un certain nombre d'espèces végétales. Et l'engagement de l'exploitant, c'est de mettre en place des pratiques avec comme objectif de maintenir toutes ces espèces présentes sur ces prairies. Donc pour l'accompagner, on a une animatrice qui va sur le terrain. Et le parc vient d'éditer à destination de ces exploitants un petit guide pour reconnaître les principales espèces qu'ils peuvent trouver sur ces prairies humides.
Alors vous qui travaillez dans le parc, donc je vous rappelle, hein, Michel Ameline, sur le pôle environnement, est-ce que vous n'avez pas le sentiment parfois d'être pris un peu pour des gendarmes un peu contraignants par rapport à certains acteurs qui ont comment dire, des objectifs beaucoup plus personnels en termes d'exploitation des ressources?
Effectivement, le parc n'a pas de vocation, on va dire, policière.
Soyons clairs.
Voilà, il faut être clair et précis. On attribue souvent au parc, mais à tort, ce pouvoir que nous n'avons pas et que nous ne revendiquons pas du tout. Notre seul pouvoir, c'est de mettre en place sur les territoires des actions et animer ces territoires et permettre de convaincre par la pédagogie et par l'action un certain nombre de partenaires sur une meilleure prise en compte de l'environnement. Donc ça vaut... Natura 2000 n'a que seul objectif. On a beaucoup critiqué Natura 2000 en disant ça va être des mises sous cloche, on ne va plus pouvoir rien faire.
Sur les territoires, ça a été souvent très critiqué. Pas forcément par les amoureux de la nature et de la biodiversité, mais critiqué.
Critiqué. En fait, le seul objectif de Natura 2000...
On a souvent dit que c'était un obstacle à un développement en termes économiques, d'habitat, de ressources pour des collectivités. Enfin, que n'a-t-on entendu?
Bien évidemment. Mais ce sont encore basés sur une peur de... entre guillemets, de la nature, des conséquences qu'on pourrait avoir à vouloir protéger cette nature, alors qu'on est là sur des actions complètement de volontariat, de dynamique de territoire, et ça peut être aussi un accompagnement économique. Sur la vallée du Sarton, nombre d'agriculteurs exploitent des prairies en bordure de la rivière, et beaucoup ont pris des contrats Natura 2000. C'est un accompagnement financier qui n'est pas négligeable non plus par rapport, je dirais, à la qualité de notre environnement et au fait d'impliquer ces exploitants dans des démarches plus proche de l'environnement, et notamment sur le maintien des prairies permanentes.
Et votre principal soutien, finalement, pour faire entendre de façon souple votre discours, c'est quoi? C'est l'Europe? C'est l'État? Ou les collectivités locales? Allez, on met en ordre.
Alors, si on parle d'un point de vue budgétaire, notre principal soutien, c'est plutôt les régions. Basse-Normandie et Pays de la Loire. Ensuite, on a un soutien de l'État sur les actions biodiversité. Donc un accompagnement du ministère de l'Environnement sur un budget. Et le dernier soutien, bien évidemment, l'Europe. Alors budgétairement, c'est difficile à apprécier.
Mais c'est vous qui veillez quand même à l'application des consignes européennes, quelque part, non? Vous n'êtes pas un peu chargé de mission là-dessus?
Nous avons une action de pédagogie, de dire aux gens comment il faut faire ce qu'il faut faire. Nous n'avons aucune mission de... policière ou de vérifier. Ça, c'est par rapport à Natura 2000, les exploitants prennent des mesures environnementales ou des contrats Natura 2000 librement. Et quand ils le prennent, ils savent à quoi ils s'engagent, au respect de ces engagements. L'organisme de contrôle, c'est l'État. Le parc, on anime, on met en place, mais en aucun cas, on vient contrôler, on vient vérifier.
Alors, une dernière question. Le parc, donc vous, par rapport au parc, vous êtes en charge des questions d'environnement, mais le parc ne s'est-il pas préoccupé aussi, de façon assez attentive, finalement, des questions de qualité, du patrimoine, par exemple, de défense du patrimoine, du bâti. Voilà, est-ce que c'est aussi un enjeu important pour le parc?
Alors ça, c'était un enjeu qui était beaucoup plus important autrefois. Il y avait un accompagnement beaucoup plus fort sur le maintien du patrimoine bâti dans les années 70, 80 et 90 qu'aujourd'hui. Comme toute collectivité, le parc a des moyens qui se restreignent dans ces périodes difficiles de crise. Donc il faut bien que nous recentrions nos actions. Et comme je vous l'ai dit, la réglementation et la loi sur les parcs orientent de plus en plus ces parcs vers des actions environnementales, sans négliger l'économie. Alors, je vais prendre un exemple simple. Le parc était précurseur en matière de préservation des variétés de pommes et de poires. Et dans les années 70-80, a installé un certain nombre, et même jusqu'aux années 90, de vergers conservatoires. Courant des années 90, on a accompagné le syndicat des producteurs de poirées du Domfronté dans des démarches de valorisation de leurs produits, notamment sur l'AOC Poirée et sur l'AOC Calvados du Domfronté. Et c'est bien parce qu'on a fait tout ce travail d'inventaire, de préservation avant, qu'on a pu accompagner l'INAO, accompagner le syndicat dans la définition des variétés de poires utilisées pour faire ce poiré, pour faire ce calva, et avec un débouché économique. Donc ce qui a été fait pour la biodiversité qu'on appelle domestique, notamment ces variétés de pommes et de poires, et qui arrivent à la fin sur des débouchés économiques, une valorisation vers la qualité des produits, c'est de même, à mon avis, aujourd'hui, avec la biodiversité dite sauvage ou naturelle, qui servira peut-être demain de support pour des produits agricoles de qualité.
Alors une manifestation comme Planète en Fête ici, où nous sommes, d'ailleurs on l'entend bien derrière, on est dans le bain, vous y êtes présent, vous y êtes partenaire, c'est quoi l'enjeu pour vous là, de ce genre de manifestation?
Alors on est avant tout présent sur ce type de manifestation, puisque la vocation des parcs naturels régionaux est bien évidemment de promouvoir des productions de qualité, des productions qui sont en lien avec le territoire et qui sont en lien avec la biodiversité présente sur ces territoires. Donc on a forcément tout naturellement notre place. On essaye aussi d'animer au travers de sorties qu'on organise. Donc il y a eu une sortie hier sur le thème de la rivière. Cet après-midi, le parc organise une sortie sur le thème de la haie et de la biodiversité. On accompagne Catherine Pex qui a produit un film sur l'origine de la pomme qui va passer cet après-midi à 14h30 au cinéma L'Aiglon. À l'issue de cette projection, il y aura un accueil qui sera fait au stand du parc pour déguster des produits agricoles et discuter et parler avec Catherine Peck sur ses origines de la pomme.
Voilà, on vous remercie. Donc Michel Ameline, au passage d'ailleurs, vous avez parlé de l'Aiglon. C'est vrai, c'est intéressant de rappeler aussi aux auditeurs qui se trouvent ailleurs que dans ce secteur, qui ne connaissent pas ce secteur, que dans une petite commune comme Saint-Pierre-des-Nids, il subsiste effectivement un cinéma, l'Aiglon, et ça c'est important en termes de lien social et de présence de la culture sur les territoires. C'est l'occasion de le rappeler. Michel Ameline, vous êtes donc responsable du pôle environnement au parc naturel régional Normandie-Maine. Merci de votre témoignage sur nos ondes.
Merci.
Les micros de Fréquence Oscillée voyagent pour vous faire respirer et découvrir l'air du pays de la Haute-Sarthe. Et vivre des rencontres, des échanges, des entretiens en direct d'une manifestation, d'un lieu, comme si vous y étiez.